Voilà. Parce que vous allez boire mes paroles, mais le petit magnéto qui est dessous, il va les boire aussi. Donc, si vous voulez réviser, je vous donnerai l'enregistrement du son. Bien. Alors, on y va. Ça veut dire quoi, encyclopédie ? Eh bien, vous avez l'étymologie sur cette planche-là. C'est « en » dedans, « kyklos », c'est « circulaire », et le « pédi », c'est l'éducation. « Pédagogie », c'est la même racine, si vous voulez. Donc, c'est une vision générale des connaissances, dès l'Antiquité, si vous voulez. Et donc, des gens qui ont fait des choses qui ressemblent à des encyclopédies, ça commence à Aristote. On peut dire que son œuvre, une partie de son œuvre, a un caractère encyclopédique. Pline l'Ancien, donc celui qui s'est fait cramer par le mont Vésuve à Pompéi, puisqu'il voulait voir de plus près, mais il a vu de plus près, donc il en est mort. Hein. Pline l'Ancien, c'est un historien. Des encyclopédies musulmanes, on n'en parle jamais, donc dans la période, disons, de l'Andalus, en Espagne. Et ensuite, les encyclopédies chrétiennes, à un niveau plus léger. Et je m'arrête sur le Yongle. Hein. Alors je rappelle, en chinois, le E se prononce E muet. Yongle, en chinois. Donc, qui est un empereur du début de la dynastie des Ming et qui a suscité l'existence d'une encyclopédie qui fait 50 millions de caractères chinois, bien sûr. Et donc, ça, en volume, ça représente 40 mètres cubes. Et donc, en volume, c'est 10 fois l'encyclopédie de Diderot. Vous avez vu la date, 1408. OK. Donc, on voit toujours le monde à travers les yeux des Occidentaux. Les Chinois ont toujours fait beaucoup plus que les Occidentaux. Ça continue. Donc, Francis Bacon, c'est un philosophe anglais, mais c'était surtout le chancelier de la reine Élisabeth. Et il était, donc c'est un homme politique, et qui a fait également des œuvres philosophiques. Il a fait le Novum Organum, puisque l'Organum, c'était le nom de l'œuvre d'Aristote, donc la nouvelle encyclopédie. Le dictionnaire philosophique de Bayle. Bayle, c'est un huguenot français qui était en Angleterre à cette époque-là et qui a fait, qui était surtout à caractère théologique, philosophico-théologique. Et, alors ça, on l'oublie aussi, l'Académie des sciences, je rappelle Colbert, 1660, et on a dit, eh bien, il faudrait faire quelque chose qui soit une encyclopédie. Mais à l'Académie des sciences, ça roupille un peu. Quand Colbert était mort, c'est un peu retombé dans la poussière. Et le seul qui a essayé un peu de relancer la machine, c'est Réaumur au début du XVIIIe siècle. C'est à nouveau retombé un petit peu dans la poussière. Et l'encyclopédie dite de Diderot l'a doublé sur le poteau. Et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, donc, le sujet d'aujourd'hui, on y reviendra longuement. L'Encyclopédia Britannica, qui date quand même de la même époque, hein, 68 à 71, et elle existe toujours. Et elle est considérée aujourd'hui, dans les encyclopédies, on va dire classiques, comme la seule qui subsiste. Je rappelle qu'elle a racheté, par exemple, l'Encyclopédia Universalis, puisque maintenant, ce n'est plus une société indépendante. Voilà. L'encyclopédie de Pankook. Donc, je vous dirai qui est ce Pankook. C'est un Français, comme son nom ne l'indique pas. La Deutsche Encyclopédie. Bon, un petit peu plus tard. Voilà. Donc, vous avez un petit peu la filiation. Alors, pourquoi a-t-on voulu faire une encyclopédie ? Tout simplement parce que dès le début du XVIIIe siècle, les Anglais sont en avance et il y a un phénomène d'anglomanie, vous le savez très bien, le grand publicitaire de l'anglomanie, c'est Voltaire. Voltaire qui était déjà exilé en Angleterre, ses fameuses lettres anglaises ou lettres philosophiques, a fait une publicité d'enfer pour le système anglais. Et en Angleterre, il y avait déjà quelques encyclopédies spécialisées, en particulier l'encyclopédie de Chambers, qui était une encyclopédie à caractère médical. Et donc ça se vendait très bien en Angleterre, et donc les éditeurs français, voyant que ça se vendait bien, eh bien, on dit on va essayer de faire la même chose. Donc pour faire la même chose, on demande les droits, ils les ont obtenus, et on va faire traduire l'encyclopédie de Chambers en français. Et pour ça, il s'accoquine avec un gars qui s'appelle John Mills, qui est un Anglais, comme son nom l'indique, qui habite en France, et qui commence à faire la traduction. Et puis finalement, l'éditeur, c'est un nom qu'on verra très souvent, c'est l'éditeur Le Breton. Ça a été l'éditeur de référence de l'encyclopédie de Diderot. Et pourquoi veut-il faire ça? C'est pas du tout pour l'avancement des sciences, c'est pour gagner de l'argent. C'est une entreprise capitaliste. On fait des encyclopédies, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est pour gagner de l'argent. C'est la seule et unique motivation. Et l'encyclopédie de Diderot, la seule et unique motivation, c'est de gagner de l'argent. OK? C'est pas du tout ce qu'on dit dans les livres de philosophie. Mais c'est comme ça. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui se rendent compte que les traductions de Mills sont un peu aléatoires. Et on va dire l'éthique de la traduction qu'on a aujourd'hui en disant il faut être le plus fidèle possible, c'était pas du tout dans les mœurs, c'est-à-dire quand on faisait des traductions, on inventait et on changeait le texte. Et en plus, il savait pas bien traduire. Et donc, il se rend assez vite compte que le gars est un escroc, en fait, le gars Mills, il n'est pas compétent. Il parle à peine français, donc il a du mal à traduire en français. Et donc, ils se disputent. Ils vont même se disputer jusqu'à lui casser sa canne sur la tête. Et donc, ça se termine très mal, il y a un procès, et donc l'affaire est réglée, exit Monsieur John Mills. Alors, Le Breton, à ce moment-là, prend conscience que l'aspect capitalistique de la chose, il demande une assise financière plus large que la sienne. Donc il s'associe avec trois autres éditeurs, ils sont quatre, c'est quand même lui le chef de file, et il aura un rôle important jusqu'à la fin. Et donc il dit, on va repartir d'un... Et donc il embauche un gars qui s'appelle Guy de Malves. Vous n'avez jamais entendu parler de ce gars-là, mais à l'époque il était célèbre. C'est un mathématicien languedocien, on va dire. C'est un obro languedocien qui est plutôt mathématicien et qui a un caractère de cochon. Il y en a beaucoup, vous verrez dans le système. Et lui, il ne peut pas faire ça tout seul. Et donc il prend déjà conscience qu'il faut faire quelque chose. Et donc il embauche comme collaborateur deux personnes dont on va beaucoup parler, c'est M. Diderot et M. D'Alembert. Pourquoi il embauche ? Alors, D'Alembert, il est connu, parce que sur toute la partie scientifique, c'est le mathématicien de référence français de l'époque, milieu du XVIIIe siècle. Diderot, pourquoi il arrive dans cette galère ? C'est tout simplement que lui, il avait besoin de manger. Donc, j'ai une conférence sur Diderot, ça fait une heure et demie, donc je vais faire court. Il a besoin de manger, et il s'était fait remarquer pour des traductions d'autres ouvrages d'anglais en français. Comment il a appris l'anglais ? Uniquement dans les livres. Il était bon. Et donc, il était connu dans les milieux de l'édition. J'entends bien, c'était pas du tout pour des raisons philosophiques. Et à l'époque, il était vraiment au tout début de ses œuvres, j'allais dire philosophique, il n'était pas du tout connu. Il faisait un petit peu n'importe quoi. Diderot, ok. Il y a également Condillac, c'est un abbé qui est cultivé et tout. Donc voilà, le trio de base se constitue, et Diderot, qui regarde tout ça, il a dit, mais c'est vraiment, vous n'êtes pas ambitieux, faire uniquement une encyclopédie médicale, c'est nul. Il faut faire une vraie encyclopédie, beaucoup plus large. Et donc, au lieu de faire trois volumes, on va en faire 10. Alors, effectivement, Le Breton commence à s'affoler. Mais donc la seule façon de s'en sortir, il faut faire une souscription. Puisqu'il faut engager des frais de première édition, donc une souscription. Donc, on fera une souscription. Bon, le principe en est acquis. Il y a des contrats qui sont écrits avec et le premier contrat avec Guadeloupe-Malvès est co-signé par les trois autres là, mais en tant que témoins, ils sont pas partie prenante. Et ils vont être les soutiens du système. Malheureusement, au bout d'un an et demi, le caractère de cochon de Guadeloupe-Malvès fait des ravages et le Breton le vire. Et il dit à l'équipe de réserve, c'est-à-dire Diderot, D'Alembert et Condillac, ben maintenant, vous êtes chargés de faire le boulot. Et c'est vous les patrons. Hein ? Alors, d'accord, il signe. Au passage, il en profite pour diviser par trois le cacheton des susnommés. Mais ça, ils ne s'en rendaient pas compte. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de tout à fait significatif. Et Diderot, à ce moment-là, il était déjà un petit peu surveillé parce qu'il avait écrit quelques trucs pas très sympathiques pour le pouvoir. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Et on le colle au fort de Vincennes pour lui calmer les esprits. Le Breton, qui dit « Mais c'est la cata, je viens juste de lui filer le boulot et on le met en tôle. » Alors, ça va jamais marcher. Donc, Monsieur le Breton, il avait des appuis dans la cour. Donc, il se débrouille pour faire élargir Monsieur Diderot. Donc, il est resté que trois mois au fort de Vincennes. Il n'en est pas mort. Et là, tout de suite, dès la sortie, on part. Et donc, on part de la façon suivante. Donc, pour vendre quelque chose, il faut faire un prospectus. Donc, c'est un truc publicitaire en disant, on va faire une magnifique encyclopédie, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vachement bien, et vous allez souscrire. Donc, vous allez donner des sous et vous aurez, à chaque cotisation que vous aurez des volumes supplémentaires. Très bien. Et le premier volume sort en 1751 avec un préambule que j'analyserai plus dans le détail, qui a été... Alors, le prospectus, il est rédigé par Diderot, et le préambule est rédigé par D'Alembert. Le préambule, si vous voulez, c'est l'explication du plan de classement, mais d'une façon très détaillée. Et donc, ça part. Alors, un des partis pris qui a été pris, qui est un peu curieux, c'est on va prendre un ordre alphabétique. Ça, c'était jamais fait, ça, dans les encyclopédies. Donc, on commence par A. Et puis, voilà. Alors, pour faire ça, il n'y a pas que le trio que je vous ai cité. Très rapidement, ils disent il faut absolument qu'on embauche des gens de l'extérieur et on va les payer à la tâche ou pas les payer du tout, éventuellement, si ça peut marcher. Et donc, toi, tu vas me faire un article sur ceci, sur ceci, sur cela. Donc, il y a un travail de répartition des tâches entre les différentes spécialités. Et en particulier, D'Alembert, qui est plutôt mathématicien, ben, va faire plutôt les sujets mathématiques. Mais on va embaucher aussi Buffon, qui fait des choses sur les sciences naturelles. Tout ce qui se fait de mieux au point de vue académique à l'époque sera sollicité. On va solliciter Voltaire, on va solliciter... Il y en a 150, en tout cas, en tout, hein, à peu près. Des célèbres et des pas célèbres du tout. Il y a des gens qui sont spécialisés de la géologie, de la botanique, etc., etc. Et en plus, dès le départ, c'est mis dans le préambule, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les arts mécaniques. C'est-à-dire, on est dans le pays des arts et métiers, donc beaucoup décrire les modes de fabrication de tous les objets, donc de tous les métiers, etc. Et ça, c'était inexistant dans aucune encyclopédie qui avait été faite jusqu'à présent. Donc ça, c'était une innovation tout à fait significative. Et pour faire ça, comment on fait ? On prend pas ses sources dans un bouquin, puisqu'il n'y a pas de bouquin. Donc on va visiter les artisans, les ateliers, et on prend des notes. C'est du journalisme. Et on ne prend pas de photos, mais on fait des croquis, etc. Et ensuite, ça servira de base pour faire les articles sur les métiers. Et alors là, bon, ça a l'air bien parti. Et puis, patatrac, le premier accroc au c'est la condamnation de la thèse de l'abbé de Prades. Alors, qui c'est cet abbé de Prades? C'est un gars qui a fait ses études à la Sorbonne, comme toutes les études théologiques, qui est d'une culture absolument encyclopédique, c'est le cas de le dire, et qui fait une thèse très brillante, mais qui dit en substance la foi vient par l'expérience. C'est-à-dire, quand on est, ben, on est vierge, et la foi vient par l'environnement, bien sûr familial, mais également par l'expérience. Et puis plus on grandit, plus les merveilles du monde nous convainquent que de l'existence de Dieu et patati patata. Alors ça, c'est vraiment tout à fait hétérodoxe, hein, mais personne ne se rend compte. Il a sa thèse avec félicitations du jury, comme on dit aujourd'hui, et bravo, la Sorbonne unanime a validé la thèse de l'abbé de Prades. Mais il y en a d'autres qui sont dans les parlements. Alors ça, je suis obligé de vous parler des jansénistes. Vous savez, les jansénistes du XVIIe siècle. Donc Louis XIV les a bien fait quasiment disparaître, mais la sensibilité janséniste, qui, on dirait que ce sont des catholiques intégristes, hein, aujourd'hui, elle subsiste. Et ces gens-là, c'est surtout des gens de robe, ils se sont réfugiés dans les parlements. Et vous savez que le problème du XVIIIe siècle, il y a eu la lutte perpétuelle, en particulier de Louis XV contre les parlements, et ensuite de Louis XVI contre les parlements. Et cette sensibilité, disons, rigoriste au niveau religieux, elle s'est réfugiée dans les parlements, et ce qu'on appelle le parti janséniste. Par contre, il y a le parti dévot, qui est le parti de l'entourage des rois, qui est constitué essentiellement de jésuites. Donc vous avez un triangle infernal qui va se constituer, qui est le triangle, ce que j'appelle le triangle des Bermudes, les jansénistes, les jésuites et les encyclopédistes, dont on n'a pas encore inventé le nom, puisque on n'est qu'au début du processus. Et l'affaire ne fera qu'enfler dans les 20 années qui suivent. Donc, in fine, on dit, mais, parce que l'abbé de Prades, manque de pont, on l'avait sollicité pour faire des articles. Donc, comment ça se fait qu'un gars qui est finalement hérétique, vu du point de vue du Parlement, il a participé à un machin dont on n'a pas vraiment entendu parler, enfin, bon, on a eu le privilège du roi, mais bon, on s'en est pas tellement inquiété, puis en y regardant de plus près, c'est louche, cette affaire-là. Donc, les gens qui participent à ça, ils sont pas nets. Donc, on interdit, puisque c'est le régime de la censure, on interdit l'encyclopédie. Oh, ça, c'est bien embêtant. Monsieur Le Breton, il est très embêté. Hein. Voilà. Alors, il se trouve, là, c'est les hasards de l'histoire, il y a un gars qui intervient dans le système, monsieur Malesherbes, monsieur de Lamoignon, parce que Malesherbes, c'est son titre, monsieur de Lamoignon, est dans la sensibilité, on va dire, de Diderot. Et c'est lui qui est le chef des censeurs. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, il est fin politique et dit, ben, faut que je trouve une astuce pour faire lever l'interdiction, en disant, ben oui, non, mais c'est pas grave, parce que le gars de l'abbé de Prades, ben oui, d'accord, on va condamner les articles qu'il a écrits, mais on laisse continuer la chose, c'est quand même une belle entreprise, patati patata. Il arrive à convaincre l'entourage du roi de lever l'interdiction. C'est quand même paradoxal pour le chef de la censure, hein. Et ça aurait pas été lui. On peut dire que alors je rappelle que monsieur de Lamoignon, monsieur de Malesherbes, il a mal fini, puisque vous savez qu'il était guillotiné pour avoir défendu le roi Louis XVI à son procès, hein. Donc voilà, il a été constant dans ses idées, on va dire libérales. Donc c'est reparti, et après, ben, d'une façon périodique, il y aura des incidents divers et variés. J'en cite un, là, qui est célébrissime, c'est l'article Genève. Et ça, c'est encore un coup de Voltaire, le filou, le gros filou Voltaire. Alors, je rappelle qu'à l'époque, il est à Ferney. Hein, il a déjà été viré par Frédéric de Berlin, hein, à coup de pied dans les fesses. Et donc il a dit, il faut que je trouve un endroit pour me mettre au frais, et donc pas trop loin de la frontière. Et donc, c'est le fameux Ferney-Voltaire, hein, la seigneurie de Ferney. Et il est là, il vient juste de s'installer. Et il dit, bah, tiens, on va faire un article sur Genève. Alors, il demande à Voltaire de... il demande à D'Alembert, tu vas me faire un article sur Genève. Ah bon ? Ben oui, mais pour faire l'article, il faut que j'aille voir à Genève. Évidemment, pour aller à Genève, il trouve un hôte de marque, c'est Voltaire. Il va voir Voltaire. Et Voltaire lui raconte des carabistouilles tombées à la renverse, qui dit en substance, « Ah, mais vous savez, le clergé de Genève, bon, comme ça, pour faire bien, c'est quand même des calvinistes, hein ?» Et, bon, ils sont rigoristes comme ça, mais dans le fond de leur cœur, ils sont très libéraux, et les dogmes de la Sainte Trinité, tout ça, bon, on fait semblant, mais voilà. Et donc, mon D'Alembert, couillon comme pas deux, il prend ça comme argent comptant, et il colle ça dans l'article Genève. Alors, deux scandales successifs, les pasteurs de Genève viennent en cortège serré, voir Voltaire en disant « Mais qu'est-ce que tu as raconté à D'Alembert ? Vraiment, tu nous prends pour des idiots, tu veux foutre le feu à la ville de Genève ?» Et il l'avait fait exprès, c'était pour semer la panique, et lui, il savait très bien faire. Et puis, deuxièmement, il y en a le troisième larron, c'est Rousseau, parce que Rousseau, c'est les copains de machin. Il dit « Comment ça se fait que tu ne m'as pas demandé de faire l'article sur Genève ? Tu es quand même un peu gonflé. » Alors, tout ça, ben, ça fait un pataquès, pas possible. Et ça jette à nouveau la suspicion sur cette œuvre de l'encyclopédie. C'est une anecdote parmi des dizaines. Hein. Et de fil en aiguille, ben, les feux des projecteurs médiatiques, comme on dirait maintenant, se dirigent sur cette encyclopédie. Alors ça a deux aspects, le risque permanent d'une interdiction, mais également ça fait une publicité d'enfer. Et donc les souscriptions montent en flèche. En disant, parce qu'on n'en avait pas vraiment entendu parler, donc les gens se ramènent en disant « Ah, mais ce truc-là, ça doit être quand même pas mal, il faut qu'on achète, il faut l'avoir. Hein, » voilà. Et là, la cabale anti-encyclopédiste se met en place, et alimentée par le parti des Vaux et par le parti des jansénistes, et un fameux Chaumex, qui a fait un pamphlet, vous voyez, à l'époque, on ne faisait pas dans le détail, Le préjugé légitime contre l'encyclopédie et essai de réfutation de ce dictionnaire, il y a 8 volumes. Il y a 8 volumes. Et ça se diffuse à quelques centaines d'exemplaires dans les cercles érudits, évidemment. Donc le fait qu'il y ait une cabale donc, fait monter les actions, on va dire, de l'encyclopédie. Deuxième grand événement que je sors, c'est Helvétius, qui sort de l'esprit. Helvétius, c'est on l'appelle aujourd'hui un philosophe, c'est un gars, un noble, qui est fermier général. Donc c'est déjà pas terrible, hein. Donc il a beaucoup d'argent, et il a le temps de réfléchir, de faire des choses, hein. Il fait de l'esprit, et il donne une thèse qui est toujours un petit peu la même, en disant, eh bien c'est l'expérience, c'est le sensualisme, c'est l'empirisme anglo-saxon, c'est l'expérience qui est le fondement de la connaissance, et non pas la foi. Donc, c'est absolument hérétique, donc Helvétius passe à la censure, et comme Galilée, à genoux et en rampant, fait une rétractation écrite de son œuvre. Et puis le système dit, écoutez, les gars de l'encyclopédie, ça commence à bien faire, on arrête les frais, et ce coup-là, on révoque le privilège. Monsieur de Lamoignon, il est bien embêté. Donc comment on va se sortir de ce mauvais pas qui, disons, ça s'enfonce à nouveau. Ah, il trouve une astuce extraordinaire. Comme on va faire des planches, ben, les privilèges sur le texte est annulé, mais les privilèges sur les planches est maintenu. Et donc, il n'y aurait plus que des planches et pas de texte. Et il obtient, enfin, il laisse faire l'impression clandestine des volumes de texte qui avancent dans l'alphabet. Voilà. Attendez. Coordination clandestine. Voilà. Non, alors, j'ai oublié quelque chose, là. Le pape condamne, toujours pour les mêmes raisons. Alors, il y a un épisode absolument croquignolet, c'est que, à l'occasion d'un autre incident, mais qui n'est pas sur ma planche, là, à nouveau, on apprend quand même qu'il y a des impressions clandestines. Donc, il va falloir absolument que l'on, et en particulier un endroit où on peut trouver des manuscrits, et bien sûr, c'est chez Diderot. Donc, on va faire une perquisition chez Diderot. Malesherbes apprend ça, et il a dit, il faut absolument que vous cachiez tous vos travaux. La seule façon d'y arriver, ben vous cachez vos manuscrits chez moi. Donc, Malesherbes, le chef de la censure, a caché les manuscrits de Diderot chez lui. Il faut quand même le faire. Hein. Et il est passé à travers les mailles du filet. Donc, c'est par l'attitude bienveillante de la censure que l'encyclopédie a pu continuer. Alors là, je vous ai parlé du triangle jésuite, janséniste et encyclopédiste, et il y a un des pôles du triangle qui a sauté, c'est l'expulsion des jésuites, alors pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'encyclopédie, c'est qu'il y avait un jésuite qui avait fait de la cavalerie au sens monétaire du terme dans les Antilles, et qui avait 1 million de livres de dettes. Et la Compagnie des Indes occidentales, le roi dit, il faut que les jésuites payent. Vous savez, c'est exactement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Paye la créance d'un million de livres j'ai oublié le nom du jésuite. Évidemment, les jésuites, non, il n'en est pas question. Les parlements ont dit, on va expulser les jésuites. Puisqu'ils ne veulent pas payer, on va expulser les jésuites. En 1762. Alors pourquoi on n'aimait pas les jésuites ? Parce que c'était l'entourage direct du roi et les parlements reprochaient, c'est eux qui tirent les ficelles. C'est l'alliance du glaive et du goupillon, c'est classique. Et eux, ils n'avaient qu'un pouvoir de blocage, mais ils n'avaient pas un pouvoir de décision. Hein. Donc ça continue, cas à cas. Et puis, à la fin du processus, mon ami Diderot, parce qu'il n'y avait pas des bons à tirer comme maintenant. Hein, je rappelle que les éditeurs, à l'époque, sont en même temps éditeurs et imprimeurs. C'est-à-dire la dissociation des deux fonctions, c'est quelque chose qui n'est arrivé qu'au XIXe siècle. Donc, ça s'imprime chez l'éditeur. Et il finit par découvrir que par rapport à ces manuscrits, ce qu'il y a dans, le Breton a fait une censure. Parce que sentant que l'ambiance n'était quand même pas très favorable à l'encyclopédie, les passages les plus hot, il les a sabrés. Donc mon Diderot fait un caprice pas possible, il fait des lettres incendiaires à Le Breton, et il termine, mais sans beaucoup d'enthousiasme, il y a d'autres qui prendront la suite. Et donc, il y a passé 25 ans de sa vie, quand même. Et donc, ça se termine un petit peu en eau de boudin, pour Diderot. Les planches suivent leur cours. J'ai mis Luneau de Bois-Gilbert. Alors là, il y a toujours un râleur de service. Parmi les 4000 qui ont fait les machins, il y a un gars qui a fait un procès en disant « Moi, j'ai pas eu mes volumes en temps et en heure. Donc, je fais un procès, je veux qu'on me rembourse et avec les indemnités. » 8 ans de procès. Au bout du compte, il a perdu. Mais la chicane au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, c'était quelque chose. Hein. Phénomène aussi assez classique au XVIIIe siècle, c'est la copie. C'est-à-dire qu'on pirate. On voit que le bouquin a du succès, donc sans vergogne, on en copie. Et il y a l'édition d'Yverdon qui est un clone de l'encyclopédie de Diderot. Et le fameux supplément de Pankouk. Alors, Pankouk, c'est un éditeur parisien, donc beaucoup plus jeune, et qui dit à Diderot, maintenant que vous êtes à la lettre Z, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans les mailles du filet. Donc il faudrait faire quelques compléments. Et Diderot lui dit, écoute, moi j'en ai ras-le-bol, je suis trop vieux, j'arrête. Et donc Panckoucke prend l'initiative de faire des volumes complémentaires dans lesquels Diderot n'y est pour rien. Voilà. Alors maintenant, voilà un petit peu le panel des gens. 158 contributeurs, c'est-à-dire rédacteurs d'articles. Les articles sont rédigés indépendamment les uns des autres, sauf ceux qui sont vraiment pilotés par Diderot, même s'il ne les fait pas, mais je dirais qu'il a, il a un contrôle, j'allais dire, du quart de l'ensemble de la rédaction. Il n'y a pas de traitement de texte à l'époque, c'est tout à la plume d'oie, et il n'y a pas d'Internet, donc vous pouvez imaginer l'ampleur de la tâche. Hein. Alors Diderot avait, parce que lui il a fait pas mal d'articles tout à fait au début, comment les a-t-il fait? Il n'avait pas la science infuse, il a acheté des bouquins, il a amassé une bibliothèque pour constituer sa base de connaissances. Et cette fameuse bibliothèque, c'est finalement Catherine de Drucy qui va lui racheter. Mais il lui rachète comment? Il la rachète en viager. Elle la rachète en viager. Et là, il attendait ça avec. Enfin, c'est, pour lui, c'est un cadeau du ciel parce qu'il a eu 50 000 francs, 50 000 livres cash qui lui ont été apportés. À l'époque, c'était une somme énorme. Il gagnait à peu près, je dis ça de mémoire, c'est dans une autre planche, 7 000 par an. Hein. Donc, vous voyez, et ça lui a servi à doter sa fille, parce qu'à la fin, il n'avait qu'une fille survivante, et dans son éthique, il n'avait qu'une chose à faire à la fin de sa vie, doter sa fille. Il y est arrivé. Alors ensuite, tous les rédacteurs, c'est des bons, hein, c'est des jésuites, des intellectuels. Et surtout, ce qui est intéressant. Alors, voilà la catégorie socio-professionnelle des rédacteurs. Hein, vous voyez, médecin 23, enseignant 24, fonctionnaire 24, ecclésiastique 10, juriste 9. Alors, voilà Diderot. Mais bon, il a fait 5000 articles. Alors, 5000 articles, ça représente. J'ai peur de dire une bêtise de mémoire. Un petit quart. Hein. Voilà D'Alembert. Et je m'arrête sur celui-là, dont on ne parle jamais, le chevalier de Jaucourt. Alors, le chevalier de Jaucourt, c'est lui qui a fait le dernier tiers de l'encyclopédie, quasiment tout seul. Et c'était un gars qui était plutôt une formation d'ingénieur, je dirais, ouais, avec les appellations d'aujourd'hui. C'était un bosseur absolument impénitent, et c'est lui qui a compensé finalement la lassitude de Diderot à la fin du processus. Vous voyez, 60 000 en tout, donc je disais une bêtise, donc 5 000 ça représente moins de 10%, le chevalier de Jaucourt en a fait presque un tiers, hein. Vous voyez, 18 000 sur 60 000. Et donc, c'est la fin de la période 56-65. Je rappelle, la période, c'est 1750-1775. Donc, vous voyez les articles qu'il a fait. Donc, c'est plutôt les articles techniques. Panckoucke, le voilà, donc libraire parisien, qui prendra la suite. Et voilà quelques auteurs dont j'aurai l'occasion de parler. D'Holbach, donc un athée militant. Et être athée militant en 1750, il faut être courageux, hein, et surtout quand on l'écrit dans des ouvrages. Montesquieu, Marmontel, qu'on a un peu oublié, alors Saint-Lambert. Vous connaissez tous Saint-Lambert? Non, vous avez oublié Saint-Lambert. Alors, vous savez que Voltaire a eu une amie pendant 15 ans, Madame du Châtelet, Émilie du Châtelet, qui était une scientifique. Et à la fin du processus, eh bien, c'est Saint-Lambert qui a repris la main, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, il y a eu des mots entre Voltaire et Saint-Lambert. Mais c'est plutôt un littéraire, si vous voulez, Saint-Lambert. Un poète. Dami Laville, alors ça c'était très pratique, c'était un employé des impôts. Et donc tous les courriers pour échanger, ça échappait à la censure parce que ça passait dans le courrier, on va dire diplomatique, mais enfin le courrier des impôts. Oui. Hein, voilà. Alors Jean-Jacques Rousseau, j'en parle pas, le caractériel notoire qui faisait des caprices du matin jusqu'au soir, Voltaire, le menteur impénitent et le roublard impénitent. Hein, il a pas fait beaucoup, il a fait une cinquantaine d'articles seulement, Voltaire. La Condamine, Turgot, qui a fait quand même pas mal d'articles d'économie essentiellement, vous pouvez le Buffon, je l'ai cité tout à l'heure, l'abbé Morellet, comme disait Voltaire, l'abbé Morellet. Vous avez compris. Et il adorait les jeux de mots. Hein. Et je cite les graveurs. Le graveur de référence, c'est Goussier, qui a fait les plus belles gravures. Et là, ça a été une découverte. C'est une œuvre d'art, l'encyclopédie, sur les planches. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas de volume de planches réelles, parce qu'à Chalon, on a la chance de les avoir. Alors, quand on déplie ça, parce qu'il y a des suppléments qui sont dépliables, hein. Par exemple, il y a des images de galères royales qui font plus d'un mètre de long, comme ça, c'est absolument splendide. Voilà les noms des graveurs. Et la fin du processus, des encyclopédies, on a continué à en faire, et aujourd'hui, la fin du fin, eh bien, c'est Wikipédia, hein, donc l'encyclopédie sur Internet qui a tout balayé, puisque maintenant, elle dépasse 1000 fois en volume l'encyclopédia Britannica ou l'encyclopédia Universalis. Il y a 20 millions d'articles dans Wikipédia, et ça continue. Mais c'est une autre histoire. J'ai fait une conférence sur Wikipédia. Bon. Voilà, donc c'est la première séquence. Vous pouvez me poser des questions. Je passe au galop, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail des anecdotes. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, j'enchaîne sur la deuxième séquence. Donc je vais sortir de celle-là. On fera la récré après la deuxième séance. Alors maintenant, je vais vous... Ça doit être celle-là. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le contenu de l'encyclopédie. Alors, objectif du prospectus. L'objectif du prospectus, c'est de faire vendre l'encyclopédie. Donc, en 1750. Donc, on décrit les objectifs de l'encyclopédie. On dit, alors ça, c'était quelque chose de nouveau, c'est de dire les connaissances sont évolutives. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le temps passe, de nouvelles connaissances apparaissent. Ça, c'était pas du tout dans l'air du temps. Hein. Je rappelle, c'est la querelle des anciens et des modernes. On disait, les anciens ont tout trouvé. Donc les modernes n'ont rien à faire. Donc les modernes ont fini par gagner, mais même les modernes étaient plutôt, ils devenaient des anciens parce qu'ils disaient nous aussi on a tout trouvé et les suivants ne trouveront rien évidemment. Donc lui il a bien dit ça d'une façon très claire. Alors il explique pourquoi il n'a pas continué sur Chambers comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc c'est lui qui donne en fait l'histoire que je vous ai racontée tout à fait au début. Hein. Et il dit, eh bien, on aura une organisation qui est faite suivant ces trois grandes catégories. L'arbre des savoirs, alors les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques. Les arts mécaniques, c'est les métiers, hein, la technique, on va dire. Les arts libéraux, c'est plutôt la poésie, la musique, les choses comme ça. Et les sciences, ce sont les sciences. Hein, voilà. Mais les sciences incluent l'histoire, par exemple. Hein, voilà. Alors, le détail de ça sera dans le préambule, d'une façon beaucoup plus détaillée, faite par D'Alembert. Ah, ça, c'était les arts mécaniques, c'était vraiment une innovation totale par rapport à tout ce qui avait pu être fait avant. Alors, voilà le discours préliminaire de D'Alembert, donc c'est ce qui était la préface aujourd'hui du premier volume de l'encyclopédie. Et donc, je rentre un peu plus dans le détail. Exprime l'origine des connaissances humaines. Explication du plan de classement. Alors, je rappelle un petit rappel historique aussi. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler de Gottfried Leibniz? Leibniz, c'est un homme, c'est un philosophe, enfin, c'est polyvalent du XVIIe siècle, 1743. 1643-1717, si ma mémoire est bonne, et qui, entre autres choses, il a tout fait, c'était le rival de Newton, je rappelle, il a exactement pratiquement les mêmes dates que Newton, et c'était le Newton allemand, on va dire, hein, de l'époque, et son métier, c'était d'être bibliothécaire du duc de Hanovre. Et c'est lui qui, le premier, a inventé le système des bibliothèques, c'est-à-dire de faire un index et un plan de classement. Avant, les bibliothèques, on empilait les bouquins comme ça, et puis plus on en avait, plus on était riche, plus on était puissant. Et lui, il a dit, ben, ça c'est bien, mais il faut quand même organiser tout ça. Donc Leibniz a inventé le concept de plan de classement. Et donc D'Alembert reprend ce concept-là en disant, ben moi je vous propose ce plan de classement-là tel qu'il a été défini, en particulier ici, vous voyez, il faut se baser sur l'expérience, sur la raison et sur l'imagination. Et donc c'est comme ça qu'il associe les sciences à l'expérience, la raison à la philosophie et l'imagination aux arts libéraux et mécaniques. Alors, conciliation entre ordre alphabétique et systématique. Ça, c'est un problème. Et ils ont hésité, hein, en disant, est-ce que je fais une encyclopédie par thème ou est-ce que je fais une encyclopédie alphabétique? Ils ont choisi, je sais pas, j'ai pas réussi à bien comprendre pourquoi ils ont choisi l'ordre alphabétique, qui est pas le plus naturel, je dirais, hein, surtout si on a fait un plan de classement préliminaire. Mais bon, c'est comme ça. Alors, par contre, pour tourner la difficulté, ils ont inventé quelque chose de génial, ce sont les renvois. Et l'encyclopédie a inventé les renvois, et qui s'appelle aujourd'hui, dans le langage moderne, le lien hypertexte. Donc c'est M. Diderot et d'Alembert qui ont inventé le renvoi, la note de bas de page. Ça n'existait pas avant dans aucun ouvrage. Donc il y a quand même des innovations conceptuelles dans l'encyclopédie qui sont tout à fait significatives. Alors, l'histoire des Lumières vient de ce chapitre-là, puisqu'on dit, comme il y a évolution des connaissances, ben, on part d'un état de barbarie et on fait jaillir la lumière. Voilà. Et donc, cette phrase-là, elle est telle qu'elle dans le préambule, et c'est pour ça qu'on a appelé le siècle des Lumières. Donc, c'est attaché à ce document qui est le préambule de l'encyclopédie. Rejet du dogmatisme théologique, et donc ça, évidemment, c'était tout à fait hérétique vis-à-vis de l'ambiance de l'époque, pas forcément de l'ambiance sociologique des classes auxquelles on s'adressait, mais de l'ambiance politique, puisqu'il y avait la lutte, comme je vous l'ai expliqué, entre les jésuites et entre le parti dévot de la cour et les parlements. Il faut faire des histoires des sciences, donc il faut parler des hommes et non pas seulement des connaissances. Histoire des encyclopédies, nécessité de faire appel à de nombreux collaborateurs. Bon, c'est du bon sens. Justification de l'ordre alphabétique. Moi, je trouve que son baratin, il n'est pas très convaincant, mais bon, vous le lirez. Hein. Donc tout ça, c'est accessible sur Internet, il n'y a pas de problème. Nécessité de définition. Alors, je vais parler d'un autre personnage dont on a oublié le nom, c'est Formé. Formé, c'était le secrétaire de l'Académie des sciences de Berlin. Donc, replacez-vous, Voltaire a été attiré par le Salomon du Nord, hein, c'est-à-dire Frédéric II de Prusse, à Berlin, dans sa cour, parce qu'il collectionnait les intellectuels les plus brillants de l'époque. Il a tellement fait de bêtises là-bas qu'il s'est fait virer à coups de pied dans le derrière. Mais ça a duré de 1750 à 1753. Et à cette époque-là, il a connu Formé. Et Formé, c'était ce secrétaire. Il avait déjà l'idée de faire aussi une encyclopédie. Il avait fait un squelette un peu similaire à Diderot. Et donc Diderot a racheté le travail préliminaire de Formé, payé en espèces sonnantes et trébuchantes, et il rend hommage à Formé en disant, eh bien, voilà un gars qui avait déjà commencé un processus comme celui qu'on vous propose de faire. Et Formé, c'est un nom qui a consonance, encore un huguenot qui était parti après l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes. Formé, donc l'abbé Salier, il avait participé avec Formé. La partie gravée, j'en ai parlé. Description des arts mécaniques, rôle de Diderot, bon voilà. Ce texte est considéré comme le manifeste des Lumières. Donc je rappelle, ça c'est la classification antique, hein, donc le trivium et le quadrivium, voilà ce qu'on enseignait dans les écoles jusqu'au XVIIIe siècle, et on n'enseignait rien d'autre. Hein. Et voilà la façon dont ça se présente, donc ce tableau-là est imprimé comme ça là-dessus, et donc les trois grandes classes, vous le voyez, on ne peut pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait des zooms, hein, mais croyez-moi sur parole, alors là j'ai fait quelque chose de simplifié, si vous voulez, on peut l'analyser un petit peu plus, d'un peu plus près, donc quand on fait appel à la mémoire, ben, on a l'histoire sacrée, l'histoire civile et l'histoire naturelle. Voilà. Donc, ensuite, la raison, la science de Dieu, enfin, difficile à définir avec notre conception aujourd'hui, hein, la morale, la logique, la métaphysique, les mathématiques, la physique, la chimie. Vous voyez que les sciences, comme on les définit aujourd'hui, sont dans la même colonne que la théologie. Bon, donc un plan de classement, c'est relatif, ça représente les idées sociales en cours. Et ensuite, la troisième chose, imagination, la poésie sacrée, profane, donc c'est la littérature. Donc la littérature fait appel au sentiment, à la sensibilité des gens. Alors, aujourd'hui, on ne ferait pas du tout un plan de classement comme ça, mais ça correspondait à la sensibilité de l'époque. Principe de rédaction, affichage des sources. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on est très sensible à ça dans les encyclopédies, en particulier dans Wikipédia. Ça, c'était le gros saut qualitatif qui a été fait dans Wikipédia, c'est de systématiser l'affichage des sources. Alors, l'affichage des sources, là, il est beaucoup plus diffus dans le corps du texte. Hein, ce n'est pas des notes de bas de page. Mais bon, voilà. Choix des rédacteurs par spécialité, je l'ai déjà dit. Les ouvriers sont la source des arts mécaniques. Les reportages dans les ateliers, chez les artisans, qui ont été faits d'une façon très systématique. Les planches gravées, à peu ou pas de relecture. C'est-à-dire, on prend le truc comme il est, parce que le processus, le pauvre Diderot, il était complètement saturé. Il vivait au milieu de ses tas de bouquins, parce qu'en fait, il n'avait pas des beaux rayonnages avec les machins comme ça. C'était un bazar. Pas possible, avec sa bonne femme qui l'engueulait en permanence, parce qu'il était affublé de la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, une virago absolument insupportable, hein, dès qu'il rentrait, parce qu'il était souvent à droite à gauche, dès qu'il rentrait, il prenait la sauce. Hein. Puis ben, il attendait que ça se passe. Hein. Nanette, voilà, Nanette. Donc les arts mécaniques, les matières et leurs extractions, la transformation, les objets faits de ces matières, les outils, les méthodes de fabrication, l'état de l'art, faire des figures, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Cette phrase-là apparaît telle qu'elle dans le préambule de l'encyclopédie. Visite dans les ateliers, ok. Alors ensuite, voilà. Donc c'est la deuxième séquence et vous avez droit à une récréation, moi aussi. Voilà. Attendez, c'est pas maintenant qu'on applaudit, c'est à la fin. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez rester comme ça ou on enchaîne et puis on fait le truc qu'à la fin, c'est comme vous voulez. Hein. Parce que là, on est quand même nombreux, hein, ça va être un peu dur de s'agglutiner autour des bouquins. Hein. Allez, on zappe, on continue. Là, pour le moment, je n'ai pas trop dépassé mon timing. Alors, je... Alors là, ça va être plus rigolo. L'aventure éditoriale. Alors là, on parle que d'argent. Donc voilà Le Breton, donc le chef de file, les éditeurs associés. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, la fonction d'éditeur, au sens de l'époque, ça comprenait d'une part la promotion et la vente des ouvrages, mais également la fabrication des ouvrages. Ce n'était pas séparé. Et donc, le pauvre Diderot s'est rendu compte qu'à la fin, il avait un peu caviardé ses textes. Alors, donc, la souscription... Donc voilà le tarif, 60 livres au départ, et ensuite 36 au premier, 25 les suivants. Donc on n'a pas quand même le client, faut qu'il y ait une mise de fonds, hein, bien évidemment. Après c'est dégressif. Et au départ, on a 1000 souscriptions, ce qui est pas mal du tout pour l'époque. Un tirage de plus de 1000, c'était rarissime. Parce que je rappelle, il n'y avait pas de rotative à l'époque. Hein, donc la productivité de l'impression, elle était modeste. Au final, c'est dire, à la fin du processus de souscription, on a plus que doublé. OK ? Et ensuite, quand l'encyclopédie d'Yverdon et puis les différents avadars sont arrivés, on est allé jusqu'à 4000. Alors, qui achète ça? Eh bien, c'est ce que j'ai marqué là, les grands bourgeois, les hauts fonctionnaires, les nobles éclairés. Donc, en fait, quand on dit qu'il y a, c'est le siècle des Lumières, il y a le socle sociologique qui existe déjà préalablement. Ce n'est pas l'encyclopédie qui a fabriqué ce socle préexistait, et c'est pour ça que la diffusion de cet ouvrage s'est faite, j'allais dire, un peu spontanément. Hein. Alors, pour être très clair, les gens ne lisaient pas l'encyclopédie. C'est comme vous, quand vous achetez une encyclopédie, c'était pour avoir une case dans la bibliothèque, en disant « moi je l'ai hein ». Et en plus, c'est quand même, quand vous voyez la taille des bouquins, qui était exceptionnelle pour l'époque, hein, c'était la limite de ce qu'on savait faire au niveau impression. Je rappelle qu'une des difficultés de l'impression, à plat, sur les presses, c'est que si vous faites des feuilles qui sont trop grandes, eh ben, vous n'avez pas l'uniformité de l'impression, parce qu'il y a une déformation de la matrice et du pressoir, et donc vous ne pouvez pas faire plus que pratiquement ce que l'on fait là. À l'époque, toutes les structures étaient en bois, et on ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça. Donc là, c'était le record de taille d'impression qui était raisonnable d'être fait. Alors, personne n'a jamais demandé de remboursement, sauf cet abruti de Leonneau de Bois-Gilbert, qui a fait des caprices et qui a fait de la pub d'enfer, de fait, pour l'encyclopédie. Merci, monsieur Leonneau de Bois-Gilbert. C'est comme Closer maintenant. Voilà. Hein. Non, alors, les religieux éclairés, mais ils ne le criaient pas sur les toits. Voilà.
Elle était dans l'abbaye.
Oui, oui. Enfin, pas dans l'abbaye, dans le. Non, pas ici. Ah, elle y était, peut-être. Ah, bon, ben, très bien. Donc, ça correspond. Oui, mais enfin, ce qu'il y avait au XVIIIe siècle dans l'abbaye, c'était pas le début de l'abbaye. Donc, c'était des.
Oui.
Oui. Ah, je rappelle aussi, Ok, ben très bien, je l'apprends, je ne savais pas. Hein? Hein? On dirait franc aujourd'hui. On dirait franc.
Ah bon?
Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait aussi bien livre que franc. La livre tournoie. Hein?
Ça représenterait combien d'euros maintenant?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas répondre. Hein. Très, très franchement, je préfère pas dire de bêtises. Enfin, c'est cher, en clair. Hein? C'est cher.
Il faudra que tu fasses le calcul. Hein?
C'est pas 60 euros. C'est peut-être 6 000 euros ou quelque chose comme ça. C'est un facteur 100. Hein. Mais je sors le joker. Je n'ai pas révisé avant, donc je ne sais plus. Hein. Mais on trouve ça sur Internet aussi. Hein. Alors, le contrat initial, bon, 1747, avec Diderot, 7 200 livres. Comme je vous ai dit, celui avec Guade Malvais, c'était 20 000 livres. Donc, vous voyez le cacheton de départ par rapport au chiffre d'affaires, c'était quand même quelque chose de dodu. Donc il fallait avoir un espoir de vendre beaucoup. Je crois que s'ils ont fait la souscription, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux. Il fallait absolument qu'ils aient une mise de fonds qui venait de l'extérieur pour pouvoir amorcer la pompe. Voilà. Donc au bout d'un moment, comme ça marchait et qu'ils bossaient comme des nègres, il y a eu une négociation, parce qu'à un moment, Diderot a dit, même avec sa passion, il a dit, dis donc, le Breton, il faudrait quand même penser à m'augmenter un petit peu, parce que c'est, là, je trouve que je ne suis pas assez bien payé. Donc, c'est le rapport de force classique, et donc ça a marché, il a été augmenté. Alors, D'Alembert, il est sorti du système, tout simplement, parce qu'avec la deuxième interdiction, c'était au moment où on a caché les planches dans la cave de Lamoignon, de Malesherbes, il a dit, oulala, ça sent le roussi, moi je me tire, hein. Moi je veux bien continuer, je fais plus que des articles sur les maths. Mais il y a eu parce qu'en plus d'Alembert, enfin, on a des témoignages, je n'ai pas d'enregistrement. Hélas, je n'avais pas mis mon magnéto en route. Et donc, il avait une petite voix de fossé très aiguë. Et donc, quand il se mettait en colère, il paraît que ça valait le coup. Quoi. Hein? Un petit coq en colère. Voilà. 11 volumes de planches. Alors ça, c'est une... Écoutez, si vous... regardez-les sur Internet, mais il n'y a rien de tel que de les voir en vrai. Je ne sais pas si on a un exemplaire ailleurs qu'ici au musée. Non, il y en a, à Cluny, il y en a ailleurs, de l'encyclopédie, non? Vous ne savez pas?
J'ai fait quelques recherches.
Je ne sais pas ce qu'il y a là. Enfin, je suis sûr qu'il y en a à Mâcon et il y en a à Chalon. Hein. Celle de Chalon, d'ailleurs, on a un problème avec l'encyclopédie de Chalon, c'est qu'on l'a, mais on ne connaît pas son origine, c'est-à-dire on ne sait pas d'où elle vient. Il y a une forte présomption qu'elle vienne du château de La Ferté, mais on n'a pas de preuve écrite de la source, parce qu'au moment de la vente des biens nationaux, ben, tout ça, évidemment, c'est parti dans tous les sens, et à Chalon, ils ont la chance d'avoir le truc monobloc, c'est-à-dire il n'y a aucun volume qui manque, et c'est bien l'édition originale, c'est-à-dire celle de 1751. Parce qu'après, il y a eu des retirages, bien sûr. Voilà, donc les statistiques. Hein. Supplément, 4 plus 1. Voilà, alors, on arrive à l'argent. Donc, l'estimation qui a été faite, c'est que la dépense, c'est-à-dire la mise de fonds initiale plus ce qu'on a payé aux contributeurs, on l'estime à 70 000 livres. Le chiffre d'affaires cumulé a été entre 2 et 2,5 millions. C'était une affaire en or, en platine, en diamant. Et si Pankouk s'est pointé après le machin, c'était pas par un amour démesuré de l'encyclopédie, c'est qu'il avait senti le bon business. Et donc il a fait une très belle affaire. Sans parler des éditions pirates. Voilà. Donc, je confirme, le moteur de l'encyclopédie initiale, c'était une affaire capitalistique, une affaire commerciale. Alors qu'on vous... Oui.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, là, savoir le chiffre d'affaires.
Oui.
La reconstruction des bâtiments monastiques du 18e, c'est-à-dire la partie qu'on connaît, Banks, a dû coûter de l'ordre de 300 000 livres. C'est pour ça que je rebondis, parce que je m'entends de 2 millions à 2,5 millions. Bon, la souscription, je ne sais plus précisément les chiffres, mais ça donne quand même un ordre de grandeur par rapport à qui d'autre vous êtes.
Alors, oui, vous pouvez poser des questions, hein, je peux essayer d'y répondre. Alors, la dernière séquence, les articles et les renvois. On va aller plutôt dans la partie texte. Alors voilà des tableaux que j'ai trouvés sur Internet, hein, tout simplement, c'est la nomenclature des volumes, hein. Donc, les volumes de texte, ils s'appellent T, T1, T2, T3, T4, hein, 01, 02, 03, 04, et puis vous avez l'ordre alphabétique, donc A, B, C, D, etc., etc. Hein, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, justement, quand vous tombez sur ce tableau-là, quand vous cliquez sur le lien ici, hypertexte, eh bien, alors ça, c'est sur une base de données de l'Université de Chicago, parce que la plus belle... Le plus beau scan de l'encyclopédie de Diderot, il est à Chicago. J'y peux rien, c'est comme ça. Avec une base d'indexation qui est très bien faite. ARTFL, je l'ai mise en référence à la fin de la planche. Gallica a tout numérisé aussi, donc Gallica, c'est la BNF, mais c'est du scan en vrac, quoi. Disons, c'est assez basique. Voilà les volumes de planche avec les dates de sortie. Et alors, on va parler des méthodes argumentaires. C'est là que, parce que, évidemment, la pression de la censure poussait les rédacteurs à trouver des astuces pour avancer masqué. Donc, comment s'y sont-ils pris? Et je dirais, à mon avis, l'histoire des renvois de bas de page a été un moteur puissant pour un peu cacher la copie. Alors... On peut faire des argumentations implicites par détournement de l'exemple. Mais ça, j'ai des textes, c'est difficile de l'expliquer comme ça rapidement. Donc j'ai simplement mis les noms des articles qui sont intéressants. Nommés par De Jaucourt et beaucoup de Diderot. Il y a un article « beaucoup », c'est extraordinaire quand même. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur « beaucoup » ? Eh bien, eux, ils arrivent à en mettre 2 pages. Et donc, et là, c'est la langue du XVIIIe siècle, c'est un véritable plaisir de lecture, si vous voulez. C'est magnifique. Je vais vous lire quelques passages. Persuasion par l'ironie, c'est l'article court, mais surtout l'article courtisan de D'Alembert, il est à se rouler par terre. Hein. Mais c'est vraiment très fin. Hein. C'est pas des trucs de chansonnier. Hein. Persuasion par l'apologie, donc on dit ça, j'y crois, j'appuie sur l'argument. Donc échec de Jaucourt. Alors échec, c'est la fameuse histoire de, vous savez, du joueur d'échecs où on met un grain de blé sur la première case. Donc il toute l'histoire, et en fait, elle a été popularisée par l'article de l'encyclopédie. Et c'est une histoire qui était connue des érudits, mais maintenant elle s'est diffusée dans le public grâce à l'article échec. Échec, le jeu d'échecs. Économie de Rousseau. Rousseau s'occupait d'économie. Je rappelle que c'est le début des réflexions économiques dans les penseurs, les Turgot et compagnie. Donc Rousseau, il faisait de la musique et de l'économie. Il ne faisait pas que de la littérature. On l'a un petit peu oublié. Et de la botanique aussi. Hein. Et des caprices. Mais ça, c'était... Persuasion directe, éloge de l'encyclopédie. Donc Voltaire, tout en étant relativement inactif dans la rédaction des articles, a fait un pamphlet, mais enfin un papier sur de l'encyclopédie. Je rappelle que Voltaire, alors ça on ne le sait pas non plus, il a écrit 450 œuvres. 450. Il n'a pas écrit que Candide. Et de tout. Alors, pour l'essentiel, des tragédies. Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était les tragédies. Et les tragédies de Voltaire, c'est à tomber à la renverse maintenant. C'est, ça pèse des tonnes. Hein, ça passe plus du tout. Et ça, déjà à l'époque, ça passait plus. Hein. Avertissement d'Alembert, encyclopédie de Diderot. Donc c'est l'article encyclopédie. Donc dans l'encyclopédie, il y a un article sur l'encyclopédie. Il est écrit par Diderot. Et critique cachée sur la censure. Et donc là, il y a aussi des astuces, pas mal pour dictionnaire d'Alembert, critique de Marmontel et force de Voltaire. Critique sur les attaques de l'encyclopédie, donc c'est le renvoi en passing shot de retour. Hein, donc invention de Jaucourt, censeur de D'Alembert, librairie et critique directe politique, autorité politique, christianisme, paix et prêtre. Et là, je veux absolument, parce que j'ai fait ouvrir le livre sur l'article prêtre, ça je vais vous le lire en conclusion, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Et ça, quand on lisait ça à la censure, eh ben, le gars, c'est la crise d'apoplexie à la 10e ligne. Si c'est un censeur qui est en général un prêtre aussi. Donc là, c'est l'attaque, c'est frontal. Hein. C'est frontal et c'est vraiment c'est une démolition en règle. Donc, systématisation des techniques de renvoi. Et c'est comme ça qu'on cache sa copie. Si vous voulez, au lieu de faire une critique directement dans l'article qui le concerne, l'exemple archi connu, c'est Cordelier et Capucin. Cordelier, c'est un ordre monastique. Hein, et donc, dans Cordelier, bon, on décrit les Cordeliers. Et puis, on dit qu'ils portent des capuchons. Dans leur habit. Alors, dans l'article capuchon, alors là, ils sont alignés, mais à la vitesse grand V. Mais personne n'imaginerait d'aller directement dans l'article capuchon et trouver la critique des ordres monastiques, bien évidemment. Pénitent vers flagellant, les fraticelles. Bon, voilà. Et donc, je mentionne, voilà cette base de données, si vous cliquez sur ce lien. Ça, je peux te donner les copies des PowerPoint, hein, et tu peux les distribuer. Et c'est libre de droit. Hein, voilà. Moi, je suis payé zéro livre. Hein, voilà. Donc, non, mais si vous voulez, ça vous sert un petit peu d'aide-mémoire dans mon discours. Voilà. Donc, la quatrième mi-temps est terminée, et la cinquième mi-temps, je vais quand même me faire le plaisir de lire quelques articles bien saignants pour mettre de l'ambiance. Voilà. J'espère que je vais les trouver. Je les avais ouverts tout à l'heure. Voilà. Alors, si avant les articles bien saignants, je vous montre très rapidement des aspects des images. Voilà le type de gravure que l'on voit dans les volumes de planches. Donc vous voyez, les descriptions de métiers sont toujours en deux parties comme ça. C'est-à-dire la partie supérieure, c'est l'atelier ou la situation, et la partie inférieure, ce sont les outils. Hein ? Vous voyez la descriptive, on n'a pas attendu M. Gaspard Monge pour en voir dans l'encyclopédie. La menuiserie, des portes. Voilà mes préférés, les grands bateaux de marine. Voilà. Regardez ça. C'est magnifique. Et ça, je peux vous... c'était pas à très haute définition, mais... Voilà, regardez ça. Donc, un bassin de radeau, une cale sèche. Et vous voyez tous les ouvriers avec tous leurs outils et tout ce qu'ils font. Voilà, ça c'est un arsenal de marine. Voilà une coupe d'un bateau. Voilà la galère royale. C'est pas beau ça ? Joaillier. Mécanisme d'horloge. Zoologie. Héraldique. Ça, c'est la verrerie, je crois. Des martinets dans les forges. le moule de la statue équestre de Louis XIV. Comment on a fait pour faire la statue équestre? Magnifique. Voilà pour faire le modèle. Voilà la coulée de fonte. Le rouet à filet, les charpentes, les escaliers, les boulangers, les outils des boulangers, les menuisiers, les bouchers et les outils des bouchers, l'astronome. Les caractères spéciaux, alors ça c'est époustouflant. Il y a des caractères de toutes les langues, de toutes les parties du monde. Donc il y avait, et ça c'est les jésuites qui ont apporté ça. Donc les chinoises, alphabet tamoul, en 1750 à Paris, il y avait quelqu'un qui s'intéressait à l'alphabet tamoul. Le russe, bon, ça c'est plus compréhensible, hein. Voilà. Le copte, l'éthiopien et l'abyssin. Donc vous imaginez, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, ça pouvait être que des missionnaires. Donc c'était des jésuites, hein, qui rapportaient ces informations. Et donc qui ont participé à la rédaction. Bien sûr, l'arabe, etc. Donc vous pouvez, la fusion du verre, voilà. La couture, la taillanderie, donc la taillanderie c'est pour faire les outils agricoles, hein. Les perruques, la musique, etc., etc. J'ai fait un tour complet. Donc ça vous donne une idée un petit peu de des images. Très rapidement. Donc, on va passer sur les articles et je vais vous libérer parce que, voilà. Ah, je vais vous le lire, article prêtre. Vous le voyez, là, vous arrivez à le lire, mais je le lis. Il est doux de dominer sur ses semblables. Les prêtres surmettent à profit la haute opinion qu'ils avaient fait naître dans l'esprit de leurs concitoyens. Ils prétendirent que les dieux se manifestaient à eux. Ils annoncèrent leurs décrets. Ils enseignèrent les dogmes. Ils prescrivirent ce qu'il fallait croire et ce qu'il fallait rejeter. Ils fixèrent ce qui plaisait ou déplaisait à la divinité. Ils rendirent des oracles, ils prédirent l'avenir à l'homme inquiet et curieux. Ils le firent trembler par la crainte des châtiments dont les dieux irrités menaçaient les téméraires qui oseraient douter de leur mission ou discuter leur doctrine. 1750. Essayez d'imaginer un jésuite qui lit ça, là, c'est la crise cardiaque à la deuxième ligne. Hein. Pour établir plus sûrement leur empire, ils peignirent des dieux comme cruels, vindicatifs, implacables. Ils introduisirent des cérémonies, des initiations, des mystères dont l'atrocité put nourrir dans les hommes cette sombre mélancolie si favorable à l'empire du fanatisme. Alors le sang humain coula à grands flots sur les autels. Les peuples subjugués par la crainte et enivrés de superstition ne crurent jamais payer trop chèrement la bienveillance céleste. Les mères livrèrent d'un œil sec leurs tendres enfants aux flammes dévorantes. Des milliers de victimes humaines tombèrent sous le couteau des sacrificateurs. On se soumit à une multitude de pratiques et des superstitions les plus absurdes achevèrent d'étendre et d'affermir leur puissance. Malgré la soumission et la douceur, si recommandée par l'Évangile, dans des siècles des ténèbres, on a vu des prêtres de Dieu de paix arborer l'étendard de la révolte, armer les mains des sujets contre leur souverain, ordonner insolemment au roi de descendre du trône, s'arroger le droit de rompre les liens sacrés qui unissent les peuples à leur maître, traiter de tyrans les princes qui s'opposaient à leurs entreprises audacieuses, prétendre pour eux-mêmes une indépendance chimérique des lois faites pour obliger également tous les citoyens. Ces vaines prétentions ont été cimentées quelquefois par des flots de sang. Elles se sont établies en raison de l'ignorance des peuples, de la faiblesse des souverains et de l'adresse des prêtres. Ces derniers sont souvent parvenus à se maintenir dans leurs droits usurpés dans les pays où l'affreuse inquisition est établie. Elle fournit des exemples fréquents de sacrifices humains qui ne le cèdent en rien à la barbarie de ceux des prêtres mexicains. Il en est point aussi ainsi, des contrées éclairées par les lumières de la raison et de la philosophie, le prêtre n'y oublie jamais qu'il est homme, sujet et citoyen. Là, ça fait mal. Hein ? Voilà. Alors, je vais vous en donner quelques autres dans le moins hard. Hein ? Voilà. Alors, on va... Une petite couche sur le christianisme. Le christianisme, je le sais, a eu ses guerres de religion. Et les flammes en ont été souvent funestes aux sociétés. Cela prouve qu'il n'y a rien de si bon dont la malignité humaine ne puisse abuser. Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre. Mais c'est le vice des particuliers, et non le christianisme, qui par sa nature est également éloigné des fureurs outrées du fanatisme et des craintes imbéciles de la superstition. Vous voyez, le langage du XVIIIe siècle, c'est absolument... quand c'est des choses élégantes, ces choses-là sont dites, hein, ça, y a pas de doute. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais dire la même chose avec le vocabulaire d'aujourd'hui, ça n'a pas le même style, hein, y a pas de doute. Hein. La religion rend le païen superstitieux et le mahométan fanatique. Tiens, c'est curieux. Leurs cultes les conduisent là naturellement, voyez paganisme, voyez mahométisme, le renvoi, ok. Mais lorsque le chrétien s'abandonne à l'un ou l'autre de ces deux excès, des excès, hein, lorsqu'il agit contre ce que lui prescrit sa religion, en ne croyant rien de ce qui lui est proposé par l'autorité la plus respectable qui soit sur la terre, je veux dire l'Église catholique, bien évidemment, il n'a point à craindre que la superstition vienne remplir son esprit de préjugés et d'erreurs. Elle est le partage des esprits faibles et imbéciles, et non de cette société d'hommes qui, perpétuée depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, a transmis dans tous les âges la révélation dont elle est la fidèle dépositaire. En se conformant aux maximes d'une religion toute sainte et toute ennemie de la cruauté, d'une religion qui s'est accrue par le sang de ses martyrs, d'une religion enfin qui n'affecte sur les esprits et sur les cœurs d'autres triomphes que celui de la vérité qu'elle est bien éloignée de faire recevoir par les supplices, il ne sera ni fanatique ni enthousiaste. Il ne pourra point dans sa patrie le fer et la flamme, et il ne prendra point le couteau sur l'autel pour faire des victimes de ceux qui refuseront de penser comme lui. Vous voyez l'ironie de la phrase, mais c'est soft. Hein, vous me direz peut-être que le meilleur remède contre le fanatisme et la superstition serait de s'en tenir à une religion qui, prescrivant au cœur une morale pure, ne commanderait point à l'esprit d'une créance aveugle des dogmes qu'il ne comprend pas. Les voiles mystérieux qui les enveloppent ne sont pas propres, dites-vous, qu'à faire des fanatiques et des enthousiastes. Mais raisonner ainsi, c'est bien peu connaître la nature humaine. Un culte révélé est nécessaire aux hommes. C'est le seul frein qui les puisse arrêter. La plupart des hommes que la seule raison guiderait feraient des efforts impuissants pour se convaincre des dogmes dont la créance est absolument essentielle à la conservation des États. La voie des raisonnements n'est pas faite pour le peuple. Pan. Qu'ont gagné les philosophes avec leurs discours pompeux, avec leur style sublime, avec leur raisonnement si artificiellement arrangé. Tant qu'ils n'ont montré que l'homme dans leurs discours, sans y faire intervenir la divinité, ils ont toujours trouvé l'esprit du peuple fermé à tous les enseignements. Ce n'est pas ainsi qu'en agissant les législateurs, les fondateurs d'État, les instituteurs de religion, pour entraîner les esprits et les plier à leurs desseins politiques, ils mettaient entre eux et le peuple le Dieu qui leur avait parlé. Ils avaient eu des visions nocturnes ou des avertissements divins. Le ton impérieux des oracles se faisait sentir dans les discours vifs et impétueux qu'ils prononçaient dans la chaleur de l'enthousiasme. Il dit exactement la même chose que l'article prêtre, mais c'est dit d'une façon ironique et beaucoup plus soft. Hein, c'est pas le même auteur, bien évidemment. C'est en revêtant cet extérieur imposant, c'est en tombant dans ces convulsions surprenantes, regardé par le peuple comme l'effet d'un pouvoir surnaturel, c'est en lui présentant l'appât d'un songe ridicule que l'imposteur de la Mecque osa tenter la foi. L'imposteur de la Mecque osa tenter la foi des crédules humains et qu'il éblouit les esprits qu'il avait su charmer en excitant leur admiration et captivant leur confiance. Les esprits fascinés par le charme vainqueur de son éloquence ne virent plus dans ce hardi et sublime imposteur qu'un prophète qui agissait, parlait, punissait et pardonnait en Dieu. À Dieu ne plaise que je confonde les révélations dont se glorifie à si juste titre le christianisme avec celles que vantent avec ostentation les autres religions. Je veux seulement insinuer par là qu'on ne réussit à échauffer les esprits qu'en faisant parler le Dieu dont on se dit l'envoyer, soit qu'il ait véritablement parlé, comme dans le christianisme et le judaïsme, soit que l'imposture le fasse parler, comme dans le paganisme et le mahométisme. Or, il ne parle point par la voix du philosophe déiste. Une religion ne peut donc être utile qu'à titre de religion révélée. Alors là, vous voyez, alors ça, c'est un truc qui passe à travers. Dès cette époque-là, il y a une critique séparée des musulmans. Ça, c'est très clair. Et donc les musulmans, alors, Voltaire lui y est allé au canon sur les musulmans, donc il suffit de relire ses textes. Là, vous voyez, c'est fait d'une façon plus subtile. Ça, c'est moins rigolo. Et je dois voir l'article, oui, paix. Ah, c'est rigolo ça. Mais quand vous en avez marre, vous faites, vous dites, c'est oui. Ah ben oui, mais ça ne s'adressait pas aux... ça s'adressait qu'aux gens cultivés. Donc, personne ne savait que ce machin-là existait. Ça fonctionnait en circuit fermé. Vous avez vu le nombre de volumes. Et en plus, je suis sûr qu'il y a... Voltaire a dit... Alors, a raconté une histoire. Je vais raconter l'histoire de Voltaire. C'est toujours rigolo, les trucs avec Voltaire. Il a écrit une anecdote qui est certainement apocryphe et fausse, comme beaucoup de choses qu'il a écrites. En disant, eh bien, un jour, il était, parce que je rappelle qu'avant d'aller à Berlin, il était le gars qui faisait l'historiographe, voilà, de Louis XV. Il avait réussi à obtenir ce poste-là, alors que Louis XV ne pouvait pas le voir en peinture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti à Berlin, parce qu'il sentait que ses abbatis commençaient à sentir le roussi. Donc, le historiographe de Louis XV. Il a écrit une histoire en disant Louis XV dans un salon comme ça dit mais montrez-moi cette encyclopédie dont on dit tant de mal et sortez-moi un article et puis pour que je me rende compte par moi-même. Alors donc on raconte l'histoire, donc il y a quelqu'un qui sort le volume parce que en fait on dit sortez-moi l'encyclopédie, il y en a une à Versailles, il n'y a pas de problème. C'est défendu, c'est interdit par la censure, mais il y en a à Versailles. Donc, on sort l'encyclopédie. Puis, alors, je pense que c'était un peu guidé, mais comme c'est une histoire sûrement inventée, on prend les articles qui ne sont pas du tout polémiques comme ceux-là, et des articles qui expliquent des choses d'une façon très factuelle. Et puis, à la fin, Louis XV dit, mais comment on a pu dire que c'était un tissu d'horreur, cette encyclopédie? Moi, je trouve que c'est très bien, ce bouquin. Et Voltaire, il dit ça dans son éloge de l'encyclopédie que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais on a des doutes sérieux sur la véracité de la chose. Hein. Voilà. Article paix. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. Il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel, que lorsqu'on jouit de la paix. C'est elle qui donne la vigueur aux empires, elle maintient l'ordre parmi les citoyens, elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire, elle favorise la population, l'agriculture, le commerce. En un mot, elle procure au peuple le bonheur qui est le but de toute société. Ça, c'est très nouveau. Très nouveau. On ne dit jamais ça. 1750. Donc c'est bien, il y a beaucoup de contenus qui sont philosophiquement, mais ça ne fait que redire ce qui est déjà dans l'air du temps, dans les classes auxquelles s'adresse l'ouvrage, ça c'est clair. Parce qu'en fait, les gens qui lisent ça, sont tout prêts, enfin pour l'essentiel, sont tout prêts à l'accepter. Hein. La guerre, au contraire, dépeuple les États, y fait régner le désordre. Les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit. Elle rend incertaine la liberté et la propriété des citoyens. Elle trouble et fait négliger le commerce. Les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie. Ses victimes même lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir. Etc., etc. Bon, article philosophe, attends, il est moins rigolo celui-là. Prêtre, je vous l'ai lu. Non, mais j'ai pas d'autres exemples. Donc, cherchez sur Internet, vous avez des analyses, parce que je n'ai rien inventé là, si vous voulez, c'est des analyses qui ont été faites par des érudits, et donc ils ont extrait des articles qui sont bien saignants. Hein. Et les articles très polémiques, comme l'article prêtre, ils sont ultra minoritaires. Quand même, l'encyclopédie, à 95%, est très factuelle. Elle ressemblerait à ce qu'est l'encyclopédie, une encyclopédie d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire, elle décrit les choses d'une façon tout à fait factuelle. Mais dans un langage qui est très agréable à lire. C'est pas plat et sec. Comme on dit aujourd'hui dans Wikipédia, on dit utiliser un style encyclopédique. Les gens qui font des phrases comme ça, ça n'existe plus. Mais enfin, si on avait la volonté de le faire, les superviseurs diraient écoutez, utilisez des choses plus neutres et moins emphatiques que ce style de rédaction, si vous voulez. Hein. Alors, je suis prêt à répondre à toutes les questions auxquelles je sois capable de répondre.
Sur Wikipédia, on vient de trouver que la valeur de la livre tour
mois
était entre 16 euros en 1700
et
11,50 euros en 1780. Donc, vous
voyez de voir combien. Eh bien, le total, c'est la mise de fonds, mais le chiffre d'affaires total, c'était 2 millions de livres. Donc, ça ferait 30 millions d'euros.
Une moyenne de 15 euros. 15
oui, mais 30 millions. Oui. Impressionnant, avec des bouquins, hein, quand même. Hein, c'est impressionnant. Donc, je pense qu'avoir un peu démystifié, parce qu'on dit l'encyclopédie, c'est un monument indestructible, voilà, etc. D'abord, les circonstances qui ont mené à son existence ont été tout à fait fortuites. Et là, j'ai coupé dans les anecdotes, parce qu'on en a des dizaines. Et puis en plus, ça a marché grâce à Diderot, on va le dire. Parce que Diderot s'est pris de passion pour ce projet-là, et il a bossé comme un dingue tout à fait au début, et il a su trouver dans son réseau personnel des bons. C'est-à-dire, il fréquentait déjà tous les Marmontel, les Voltaire, les Rousseau, même Rousseau. Hein. Bon, ben, j'en dis souvent du mal, mais je continuerai. Mais et ce qui est marrant, c'est que Rousseau est resté. Par exemple, Diderot a été oublié par les révolutionnaires, alors qu'il c'était quand même lui le pilier. Donc, il a été gommé par Voltaire et Rousseau, pour des raisons différentes. Ils ont eu le bon goût de mourir 10 ans avant le déclenchement de la Révolution. Et donc Rousseau, c'est Le Contrat Social et L'Émile, qui étaient ses deux dernières œuvres, qui étaient des œuvres sur l'organisation sociale, donc qui étaient reprises par les révolutionnaires, au niveau idéologique, je dirais. Disons, tout ce qu'il y avait derrière. Il faut reprendre pourquoi il a écrit Le Contrat Social, pourquoi il a écrit L'Émile. Bon, ben, ça c'est pas sorti d'un jour en disant le matin, ah, ben, tiens, je vais écrire un traité là-dessus. Non, c'est par le jeu des circonstances qu'il a été amené à écrire ces ouvrages-là. Donc, ils ont été magnifiés et on a un peu oublié, entre autres, Diderot, le rôle qu'il a pu jouer là-dedans. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que ça a fait, l'encyclopédie? Ça n'a fait que cristalliser finalement un état d'esprit d'une classe moyenne supérieure qui était prête à accepter les idées libérales au sens du XVIIIe siècle, et qui, en dehors des articles très violents tels que ceux que j'ai cités, disons, acceptait cette évolution libérale. C'est la fameuse bourgeoisie, on a dit c'est la bourgeoisie qui a gagné la révolution, c'est une bourgeoisie, mais au sens très large du terme, c'est-à-dire la noblesse de robe, les choses comme ça, qui était libérale au sens du XVIIIe. Voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait, Diderot, après ?
Ben après, donc il avait la timbale du, donc il avait eu ses 50 000 livres pour sa bibliothèque. Et après, alors Diderot, il a beaucoup de caractéristiques. Moi, j'adore Diderot. Hein, le personnage, il est très attachant. C'était on va dire un bon vivant au sens épicurien du terme. Et donc son objectif après, c'est de trouver, non seulement il avait une dot, mais il fallait trouver un mari. Donc il s'est beaucoup dépensé à trouver un mari, et donc il l'a trouvé dans son environnement familial. Je rappelle qu'il est le fils d'un coutelier de Langres, hein, son pays natal c'est Langres, il a coupé avec sa famille. Donc il vient d'un milieu qui serait des artisans du haut du panier, hein. Un peu installé et tout. Il avait un frère qui était un prêtre plus que janséniste, un furieux, hein, et donc ils se sont gueulés par l'être interposé pendant toute leur vie. Donc après, donc, eh ben, le substrat sociologique de son milieu est ressorti. Je veux doter ma fille et il faut qu'elle ait un bon parti. Et le bon parti, c'était un maître de forge dans l'environnement de Langres. Ça a été un mariage complètement loupé au niveau de parce que c'était la règle plutôt que l'exception à l'époque. Et donc là, il avait une autre caractéristique, c'était un casanier, mais vraiment, il fallait lui accrocher. Il s'est fâché avec Rousseau, parce que Rousseau habitait, vous savez, dans la cabane que lui avait fait Madame... j'ai oublié son nom. Hein ? Oui, non, de Varan, c'est bon, ça n'a pas d'importance. Dans la région parisienne, le nom m'échappe là pour le moment. Il écrit, parce qu'on s'écrivait, hein, et il disait à Diderot, viens me voir. Oh ouais. D'abord il répondait pas parce qu'il était noyé par le travail. Et mon Rousseau, susceptible comme pas d'eux, lui envoyait des lettres au vitriol en disant « Salaud, tu me laisses tomber, comment ça se fait que tu ne viens pas ?» Bon, donc ils sont fâchés, des fâcheries de gamins, quoi, de gaminerie. Alors pourquoi je parle de ça comment il a fini ? Donc Diderot, il a fini par accepter les sirènes de Catherine, parce qu'elle lui a dit « Bon, je t'ai acheté ta bibliothèque, mais tu viens dans ma cour », comme ça se faisait à l'époque. Alors, allez, connaissant Diderot, allez à... Je sens que ça vous passionne. Donc... voilà. Suffit de demander. Voilà.
Oui, c'était...
eh bien, il a fini par dire, parce que évidemment, c'est appâté par des monnaies sonnantes et trébuchantes, au-delà des 50 000 livres de la bibliothèque. Donc, tu viens à ma cour, comme l'avait fait Descartes le siècle précédent. Donc, eh ben, aller à Saint-Pétersbourg à cette époque-là, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Donc, les voyages duraient quasiment un an et dans des conditions climatiques que vous imaginez. Donc, il a fini par y arriver. Il a même réussi à revenir. Hein. Et donc, il est resté, je ne sais plus combien de temps. Et ça doit être marqué sur la planche, là. Oui, 2 ans à Saint-Pétersbourg. Et là, il fait partie de la cour. Alors, dans toutes ces cours de monarques étrangers, il y avait un climat absolument détestable, parce que dès qu'il y avait un nouvel arrivant, on le voyait d'un mauvais œil, parce qu'il vient casser le petit cercle de courtisans étrangers, en particulier les Français. Dès qu'on voit arriver un nouveau Français, eh ben, c'est peau de banane et compagnie. c'est-à-dire on lui cire la planche. Mais comme mon Diderot, il avait une particularité, il était comme moi, c'était un bavard impénitent, hein, et il avait une tchatche extraordinaire, il pouvait passer d'un sujet à l'autre et pouvait tenir le crachoir pendant 4 heures d'affilée, et sur tout sujet. Je rappelle qu'à l'époque, on parlait le français dans toutes les cours, en Prusse et en Russie. Et alors, ma grande Catherine, hein, à l'époque, elle avait bien profité. Elle fait connaissance avec l'individu et il la séduit au sens intellectuel du terme, et il obtient que tous les jours pendant 3 heures il soit en tête à tête avec elle. Et donc tous les autres courtisans français tiraient une gueule comme ça en disant: mais qu'est-ce qu'ils bricolent tous les deux? Et donc on a des relations par Catherine de la façon dont ça se passait. Alors, donc il y avait un échange qui, au début, qui était tout à fait correct, et puis mon Diderot s'échauffait, et plein de passion, et il se mettait à déambuler dans le machin, puis il se lançait dans des grandes tirades, des machins. Il était tellement enflammé qu'il, par moments, il prenait sa perruque, puis il a, parce qu'il fallait avoir la perruque, il la balançait par terre. Et il faisait des grands moulinets comme ça. Elle a dit, j'ai même été obligé de mettre une table entre nous parce qu'il me donnait des grands claques sur les cuisses comme ça. Donc il était très familier. C'était un type. Il n'était pas. C'est un, on va dire. Le mot est un peu galvaudé. C'était un homme du peuple. Il n'avait pas les manières raffinées d'un courtisan. Bon, il faisait attention quand il allait dans les milieux, parce qu'il est allé, il a fréquenté un petit peu la cour, un peu à cause de Rousseau et de Voltaire, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mon Diderot, donc, il a tenu 2 ans, puis après, il en avait marre, il voulait rentrer, s'occuper de sa fille. On revient toujours au même problème. Et donc, quand il est revenu, les deux, enfin, l'aller, le retour l'avait un peu fatigué, c'est un euphémisme. Et puis, il a plus produit pratiquement d'œuvres écrites à partir de son tour, puis il est mort parce qu'il aimait bien manger. Un grand gourmand. Donc, il était un peu. Il y a un truc extraordinaire, ode à ma vieille robe de chambre, lisez ça, c'est un truc extraordinaire, parce qu'on lui avait offert, justement la grande Catherine, elle lui avait offert une nouvelle robe de chambre, il en avait une toute crasseuse et toute trouée, mais il l'adorait, et donc il s'est cru obligé de mettre la nouvelle robe de chambre, et il a fait un texte pour expliquer comment il était désolé de ne plus pouvoir porter sa vieille robe de chambre qui était toute abîmée. Voilà. Mais enfin bon, c'est Diderot, ça, c'est machin. Diderot, il a fait des tas de trucs. Il a inventé le théâtre, on va dire moderne. Hein. Il a inventé le métier de critique artistique de peinture. Je rappelle qu'au milieu du 19e siècle, du 18e siècle, Louis XV a fait ce qu'on appelait le salon. C'est lui qui a inventé le salon, donc avec un catalogue, et il passait devant les catalogues et il faisait un commentaire sur chacun des tableaux. Et donc c'est comme ça que, alors c'était pas un métier, il s'occupait d'une feuille de chou qui s'appelait la correspondance littéraire, qui était, j'allais dire, comme la lettre de l'expansion, faite à la main, et toutes les têtes couronnées de l'Europe recevaient ça, et il fallait se le cogner à la main. Hein, ces critiques, il les mettait dans la correspondance littéraire. Donc il s'est fait un nom pour ça. Et ce concept a continué et s'est mis bien en place au 19e siècle. Et je rappelle un morceau de musique célèbre, les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, qui ne sont que la transposition musicale de la critique littéraire qui a été inventée par Diderot. Vous avez bien fait de venir, hein, vous en apprenez des choses. Hein? Oui.
À propos de critique d'art, il était un ami du peintre
Van Loo.
Hubert Robert
aussi, oui.
Qui est le peintre de Dominique de la Rochefoucauld, qui a vécu.
Oui.
Et donc, ils devaient se connaître comme ça, parce que Diderot et Hubert Robert étaient très proches.
Oui.
Ben,
Hubert Robert, c'est déjà. Il est à cheval sur la Révolution. Enfin, c'est toute fin du 18e, début du 19e. Donc, non, le peintre qui était son contemporain et qui a fait d'ailleurs son portrait, hein, qu'on voit là, c'est. Attendez. Allez-là, le. Ah. Madame d'Épinay, voilà celle que je cherchais, la copine de Rousseau. Ah voilà, celui qui lui a payé la bibliothèque, c'est le prince Galitzin. C'était l'ambassadeur de Catherine à Paris. Et il lui a amené le cash. Je vais vous retrouver le Diderot, où il est passé. Non. Ah zut. J'ai tout perdu. Ça fait au début. Voilà. Voilà. Donc le tableau qui est un fusain à droite, là, c'est un tableau qui, d'après les témoins de l'époque et même des témoignages de Diderot lui-même, est assez fidèle au niveau de la ressemblance. Ce grand fond fuyant, avec l'implantation des cheveux au milieu du crâne, comme ça. Le tableau qui est là, qu'il a critiqué violemment, parce que dans les critiques des tableaux qu'il a fait, il a critiqué son propre tableau de Van Noo, qui était pourtant son copain. Il a dit « Tu m'as loupé, hein, je ressemble à une poupée, je suis moche. » Puis là, il avait un peu caché, parce qu'il y a un autre tableau où on voit que, bon, il aimait bien la bonne chair, hein. Là, ça se voit pas trop. Hein. Voilà Diderot, qui a vécu finalement relativement longtemps, 1713-1784. Hein. Voilà. D'autres questions ?
Vous avez commenté quelques pages de là-bas ?
Ah ben, on peut aller voir les pages, là. Oui, encore une question ? Oui.
J'ai cherché un peu l'encyclopédie à Cluny.
Oui. Oui.
Des livres.
Et c'est là que vous avez vu qu'il y avait l'encyclopédie.
Et cet inventaire mériterait d'être étudié, parce que souvent, quand on parle de la bibliothèque à Cluny, on parle manuscrit ou on parle bibliothèque avant les guerres de religion. Mais la bibliothèque des moines au XVIIIe a été inventoriée de manière très précise par les officiers municipaux en 1790.
Oui.
Alors, c'est bon, on va parler moderne, tant pis si c'est détruit. C'est des pages A3, il y en a à peu près une dizaine, écrites très serrées. Il y a à peu près 3000 livres répertoriés, mais ça ne fait pas 3000 lignes, parce qu'il y a des fois beaucoup d'exemplaires. Et alors, j'ai essayé de déboucher, et l'encyclopédie, c'est marqué, il y a marqué l'encyclopédie L', 17 volumes, ce qui, sans marquer Diderot d'Alembert. Donc, 17 volumes pourraient faire suggérer que c'est Diderot. Alors, moi, je me dis, bon, c'est bon, j'ai trouvé. Puis après, je me suis dit, non, j'ai mal cherché, je suis retournée. Et en épluchant les pages suivantes, donc là, 17 volumes, on trouve plus loin encyclopédie, 13 volumes, et encore plus loin, on trouve 3 volumes. Donc on arrive à 17 plus 13 plus 3, 33 volumes. Mais là où c'est marqué l'encyclopédie 17 volumes, c'est édité à Amsterdam, 1776.
Et la date
1776, je crois que c'est ça.
Ah, c'est une réédition, forcément.
Mais, ou alors, si on prend un volume, comme ils ne sont pas tous édités au même endroit.
Bon. Oui, oui.
Alors, voilà, j'ai voulu comparer après avec un inventaire que le docteur Rocher a fait en 1840, parce qu'il voulait installer une bibliothèque pour le collège.
Oui.
Attends, je reviens au XVIIIe siècle, la bibliothèque, elle était dans l'aile sud du cloître, et nouvellement construite, qui prenait l'eau. Déjà, cette partie du cloître était en très mauvais état déjà en 1790. Que cette partie-là. Et puis après, le docteur Rochier a voulu installer une bibliothèque qui, je pense, a dû se trouver dans l'aile nord du cloître. Et alors, en 1840, il y a un inventaire du docteur Rochier qui se trouve là aux archives. Et alors, le docteur Rochier a fait un inventaire beaucoup plus soigné que celui des officiers municipaux. Et il a recensé 28 volumes en découpant en 17 plus 11, et puis il a recensé 5. Donc on arrive aussi à 33, ce qui pourrait suggérer que le docteur Rocher a retrouvé, avait les volumes. De la volume. Bon, et il faut bien dire que quand le docteur Rocher a fait l'inventaire en 1840, il n'y avait pas encore la donation de Jean-Baptiste Chachois de sa bibliothèque, enfin, il y a eu le meuble et puis il y a eu des livres, qui était de 1844. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il y a là, mais on arrive au même nombre de volumes entre l'inventaire de 1790 et...
Là, il faut discuter avec le conservateur là, pour voir un petit peu recouper les informations.
Mais